Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et le sujet de la semaine, eh bien, c'est un sujet d'actualité internationale, avec la visite du pape François en Irak. Il y a quelques jours, il est arrivé vendredi et puis il est resté presque 4 jours avec un programme de rencontres extrêmement dense, évidemment un soutien à la communauté chrétienne martyrisée notamment par l'État islamique, mais également des contacts avec d'autres communautés, et notamment la communauté chiite qui est majoritaire en Irak, avec notamment la mise en scène d'une rencontre au sommet entre l'ayatollah Sistani, représentant des chiites d'Irak, et le pape François, représentant la chrétienté. Pour en parler avec nous, j'accueille Khatar Abou Diab. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes politologue, consultant en géopolitique, spécialiste de l'islam du Moyen-Orient et également professeur à l'université. Alors, tous les commentateurs ont qualifié cette visite d'État du pape en Irak d'historique. Khatar Abou Diab, en quoi est-elle historique cette visite ?
Oui, c'est un événement historique, un événement très symbolique. C'est la première visite de la tête de l'Église catholique dans cette terre de l'Orient, de cet Orient pluriel, de la terre des premiers chrétiens, comme la Mésopotamie était aussi pas simplement la terre d'Abraham et la terre de la naissance du monothéisme, c'est en même temps la terre des anciennes civilisations, depuis Babel jusqu'à notre époque. Et pour cela, cette terre martyrisée, ces gens qui sont en souffrance depuis les années 1980, ces chrétiens d'Irak qui ont souffert pas seulement à cause de l'État islamique Daesh, mais aussi à suite à plusieurs guerres perturbantes dans cette zone, à l'entrée des troupes américaines et suite à la détérioration et même la chute de l'État irakien. Et pour cela, cette visite, pour consoler ces gens, pour montrer la solidarité du pape et pour aussi ajouter au dialogue de religion une autre dimension. Donc, dans tous ces sens, cette visite revêtait cet aspect historique.
Une visite historique également parce que le pape François a rencontré les représentants chiites et kurdes, notamment des représentants politiques, évidemment, parce qu'on l'oublie parfois, mais le pape est également chef de l'État et chef d'État du Vatican. Et également des visites interreligieuses, avec notamment des rencontres extrêmement importantes avec des responsables chiites et kurdes, et ça c'était aussi quelque part relativement inédit.
Exactement, contrairement aux thèses de la rupture des clashs des civilisations et des religions qui existent malheureusement, les clashs de culture qui existent malheureusement, les Vatican développent depuis longtemps ces dialogues interreligieux. Et en 2019, il y avait un pas de géant à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avec la signature de ce qu'on appelle les documents de la fraternité humaine, avec des grandes communautés religieuses, et notamment le cheikh d'Al-Azhar, la grande autorité sunnite, et beaucoup de autorités de cet islam majoritaire et orthodoxe. Tandis qu'avec les chiites, il y avait à un moment donné un dialogue avec le président Khatami, un président iranien modéré qui a visité le Vatican, mais il n'y avait pas une rencontre avec une autorité chiite suprême. Avec cette rencontre entre le pape François et l'ayatollah Sistani à Najaf, l'un des lieux sacrés du chiisme, l'Église catholique, donc, fait un geste en plus, et il y avait quand même un succès de cette rencontre, si on se réfère aux paroles même du pape, d'une sagesse sans précédent. Et en même temps, chez les Kurdes, qui ne sont pas simplement des musulmans, ils sont musulmans, yazidis et autres, des gens parmi les gens qui ont souffert, mais il y a aussi des chrétiens kurdes, il y a parfois des juifs kurdes, et tout ça, c'était important de visiter les Kurdistan en tant que tel. On n'oublie pas que dans le désert à Ur, où naissait Abraham, il y avait toutes les religions avec les papes. Ils ont prié ensemble, sunnites, chiites, kurdes, etc. L'Irak, c'est l'Irak des Chaldiens, l'Irak des Syriaques, l'Irak de Nestoriens, l'Irak de premiers chrétiens. Et pour cela, tous ces mélanges, toute cette mosaïque a été bien mise en scène dans cette visite. Ça a été vraiment quelque chose contraire aux guerres, aux conflits qui ont ensanglanté cette région, qui voulait faire un Orient désiré, unilatéral. Avec cette visite de Pape, on a eu la confiance que cet Orient pluriel pourrait revenir.
Alors, le Pape a visité plusieurs villes, et notamment des fiefs du christianisme irakien, mais après, vous l'avez rappelé, des décennies de conflits avec les voisins iraniens, guerre civile aussi après l'intervention, la première guerre du Golfe, et puis ensuite évidemment l'intervention américaine de 2003 qui a fait basculer le pays dans un long processus chaotique de conflits à tout niveau jusqu'à l'émergence de Daesh. Que reste-t-il finalement en Irak de cette communauté chrétienne? Parce que beaucoup ont fui, ont été persécutés, se sont réfugiés jusqu'en Europe, mais aussi dans des pays voisins. Est-ce qu'il y a encore finalement, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de chrétiens d'Orient vivent encore en Irak?
Pour être fidèle à l'histoire, il y avait beaucoup de méfaits de pouvoir de Saddam Hussein, mais l'un des plus proches collaborateurs a été Tariq Aziz, un chrétien, et les chrétiens vivaient plus ou moins en harmonie avec les autres sous ce régime autoritaire. Après la chute de Saddam, surtout en 2003, c'était la catastrophe, c'était l'anarchie, comme vous avez dit, c'était le tremblement de terre. C'est le tremblement quand même qui a fait chuter pas seulement l'État irakien, mais tout le système régional arabe. Et pour cela, ces chrétiens qui ont été presque autour de 2 millions et plus, ils sont simplement maintenant 300 000. Mais beaucoup d'autres Irakiens aussi ont quitté l'Irak. Il y avait dans cette région du monde, soit parmi les chrétiens palestiniens, les chrétiens libanais, les chrétiens syriens ou les chrétiens irakiens, beaucoup de gens qui cherchaient une meilleure vie ailleurs. Ce n'est pas simplement à cause de la répression ou à cause de l'extrémisme. Et pour cela, c'est un problème complexe et quoi qu'il en soit, ce sont deux témoins, comme j'ai dit, de ces premiers chrétiens. Cette présence chrétienne reste essentielle et je pense maintenant, ce qu'il a fait le premier ministre irakien est très intéressant. Il a déclaré le 6 mars comme une région nationale de la tolérance. C'est ça qui a besoin, cette région du monde, plus de tolérance, plus de reconnaissance de l'autre. Et je pense que cette visite de Pape donnait une confiance aux chrétiens de cette zone comme à tous les citoyens de cette zone du monde.
Alors justement, sans doute par sa visite, le Pape a-t-il voulu panser les plaies béantes de ce pays qui n'en finit plus effectivement de soubresaut en soubresaut de se déchirer?
Je pense que le Vatican, il a essayé, même avant 2003, de ne pas arriver à un moment critique de la chute de l'État irakien et de l'Irak. Malheureusement, tous les efforts à l'époque de l'ancien président Chirac et du Vatican n'ont pas pu aboutir pour épargner à l'Irak un tel sort tragique. Maintenant, pour réparer les dégâts, pour panser les plaies, cette visite est très intéressante pour déclarer un attachement international, un attachement interreligieux à cet Irak pluriel et indépendant. L'Irak en tant que tel, c'est un besoin dans cette zone. C'est un pays arabe, voisins des pays, des grands pays avec d'autres esprits nationaux exacerbés, c'est-à-dire la Turquie et l'Iran. L'Irak, c'est aussi plus ou moins la séparation entre Israël et l'interland arabe. Et pour cela, la position géopolitique de l'Irak et la pluralité de l'Irak et la position géographique de l'Irak donnent beaucoup d'importance à ces pays. Et pour cela, faire la paix en Irak, c'est vraiment le prélude à faire la paix dans tout l'Orient.
Alors, justement, dans les analyses de cette visite, il y a eu une attention particulière évidemment portée à la communauté chrétienne. Il y a également eu Kurdes, Yézidis et autres. Il y a également eu donc un dialogue mis en scène avec des représentants chiites et les plus éminents. Certains commentateurs disent que le pape a peut-être un tout petit peu oublié qu'il y avait aussi une importante minorité sunnite dans le pays. On rappelle que l'Irak est ainsi constitué de grandes ensembles de populations. Il y a une majorité chiite, mais il y a aussi une très importante minorité sunnite. Est-ce que cette minorité a été suffisamment considérée lors de cette visite?
Il faut rappeler aux auditeurs que l'Irak, avant ces tremblements de terre, on ne savait pas qui est sunnite et qui est chiite. Il y avait beaucoup de mariages mixtes. Et si je fais les simples calculs, si j'ajoute les Kurdes sunnites avec les Arabes sunnites, or les chiites ne sont pas une majorité absolue, ils peuvent être une petite majorité de 52 à 55%. Donc il n'y a pas une minorité sunnite. L'Irak, c'est une mosaïque, c'est un pays multiple. Mais comme je disais avant, avec les sunnites, il y avait la grande rencontre à Abu Dhabi. Il y avait un dialogue bien instauré entre le catholicisme et le sunnisme. Contrairement avec les autorités religieuses chiites, il n'y avait pas ce dialogue. Mais à Our, lorsqu'il y avait la rencontre dans le désert, dans ce berceau d'Abraham, il y avait bien sûr des représentants sunnites partout durant la visite de Pape. Ce qui a été oublié, malheureusement, c'est la communauté juive irakienne. Certes, cette communauté n'a pas de présence officielle maintenant. Il a été s'est déplacé en Israël, mais ça quand même, ça manque. Je ne sais pas si les cercles du Vatican n'ont pas fait attention ou le pape n'a pas voulu entrer dans ces sujets sensibles qui auraient pu perturber sa visite.
Alors justement, peut-être se donner aujourd'hui des perspectives d'avenir. Cette visite était relativement inattendue, le secret était bien gardé, on peut aussi comprendre que pour des raisons de sécurité, il fallait qu'il le soit. Est-ce qu'on peut envisager d'autres visites dans d'autres pays musulmans, peut-être le voisin iranien, peut-être la Turquie, dans une stratégie de poursuivre cette voie du dialogue et cette voie de la volonté finalement de pacifier les relations qui peuvent être encore parfois aujourd'hui conflictuelles?
Écoutez, ce qui est clair et net, c'est que le pape a promis d'aller au Liban. C'était sa promesse, et le Liban, même s'il est un pays présidé par un chrétien, mais c'est un autre microcosme de cette région du monde, un pays pluriel. Je pense pour des pays très symboliques aussi, comme la Turquie, l'Iran, même j'arrive à dire l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, c'est une question plus compliquée. Mais quand même, tout est possible. Tout est possible s'il y a une volonté. Et je crois qu'il est temps de séparer quand même l'action politique de la religion en tant que telle et de faire comme il fait le pape, de la religion un message de paix. S'il y a cette volonté dans n'importe quel pays du monde, avec n'importe quelle communauté ou quel pouvoir, le dialogue serait plus facile et plus fertile.
Donc est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste pour que le message papal ait une traduction et une répercussion au-delà d'ailleurs de l'Irak, du Proche et du Moyen-Orient, pour effectivement essayer de créer de fédérer finalement toutes les bonnes volontés et de dépasser les crispations identitaires et religieuses.
Il faut, dans ces cas, il ne faut pas être ni optimiste, ni... On ne peut pas mesurer l'optimisme ou le pessimisme. Le réalisme en tant que tel nous enseigne que c'est vrai que face aux crispations, à ces grandes tueries qui se sont passées, l'Irak a beaucoup souffert. L'intervention américaine avec un bilan de presque 1 million de personnes, et de morts, et ce qui s'est passé comme tragédie en Irak, chez les Palestiniens, au Liban, c'est énorme. Les interventions des forces régionales dans les affaires arabes sont vraiment déplorables. Mais malgré tout ça, c'est vrai que cette visite, c'est à contre-courant. Elle tente de passer le message de la paix, le message d'une existence commune, que cette terre qui a été la terre des chrétiens, comme des juifs, comme des musulmans, c'est la terre des trois monothéistes. Et ces monothéistes sont condamnés à vivre ensemble, à se respecter, à se reconnaître. C'est un message universel, car même pour l'Europe, c'est quelque chose de très important. Pour la France, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est vrai, comme on parlait d'un événement historique, on parlait de cette grande portée symbolique. Est-ce que ce message aura ses répercussions? Est-ce qu'il serait entendu? C'est qu'on espère. Mais quand même, parfois, il faut dire la vérité à haute voix. Il faut propager le message de la paix à haute voix. Et avec un courage inouï, un homme de 84 ans, avec un seul poumon, et à l'époque de Corona, il a fait ses paris, il a réussi son pari dans cette visite. Et à mon avis, c'est ça. Ça représente un grand succès.
Eh bien, je crois que ça méritait bien une émission pour marquer, je dirais, cet événement de la manière dont il doit l'être, c'est-à-dire historique. Merci beaucoup, Khatar Aboudiab. Je rappelle que vous êtes politologue, consultant géopolitique et spécialiste de l'islam du Moyen-Orient. C'était la première partie de l'émission et si on en parlait, on se retrouve dans un instant dans la seconde partie de l'émission.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». L'émission aujourd'hui est consacrée à la visite historique du pape François en Irak, la semaine dernière et pendant tout ce week-end. J'ai reçu en première partie Khatar Aboudiab, politologue, qui nous a donné son éclairage. Et j'ai maintenant le plaisir de recevoir Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. Et vous avez, comme beaucoup d'autres commentateurs, réagi à cette visite. D'abord, est-ce que vous la qualifieriez, vous aussi, d'historique?
Oui, historique, c'est incontestable. C'est la première visite d'un pape en Irak. On sait que, par ailleurs, le pape a désiré véritablement ce voyage pour une série de raisons. Que ça a été extrêmement long à mettre en œuvre pour des raisons notamment liées aux problèmes de sécurité. Il y est parvenu, il a passé 3 jours sur place, il n'y a pas eu de problème de sécurité, des messages ont été passés sur lesquels probablement nous allons revenir, mais de ce point de vue-là, c'est incontestablement, un, une réussite pour le pape, et deux, ça marque un aspect historique, puisque c'est encore une fois un pays qui n'avait pas été foulé par les pieds papaux depuis la fondation de l'Irak moderne.
Alors effectivement, il y avait plusieurs messages, c'était une visite extrêmement dense, hein, extrêmement intense, oui. Avec beaucoup de rencontres, beaucoup de visites et beaucoup de messages aussi à délivrer. selon toute vraisemblance, le premier message, c'est une marque d'attachement au christianisme irakien, notamment après les sévices, les souffrances subies au moment de l'État islamique, même s'il y avait déjà eu des persécutions dans le passé, et que cette communauté chrétienne irakienne, eh bien, c'est une communauté qui a beaucoup souffert.
Oui, c'est une communauté martyr, incontestablement. Et d'ailleurs, au-delà même du seul cadre irakien, c'est la question des chrétiens d'Orient qui sont, pour la plupart d'entre eux, dans une situation extrêmement problématique. Alors, même si on peut considérer qu'aujourd'hui, en 2021, la situation est moins terrible pour le cas de l'Irak, voire de la Syrie, qu'à l'époque où Daesh avait marqué des points, contrôlait une large partie du territoire irakien et syrien, où là, la situation des chrétiens a été particulièrement cruelle, et véritablement, on peut considérer que c'est un peuple martyr. Mais on doit aussi constater qu'au-delà même de la période la plus récente, et je remonterai notamment à 2003, date de l'intervention des États-Unis en Irak, la situation des chrétiens d'Orient n'a cessé de se détériorer. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient en Irak bénéficiaient dans leur diversité d'une forme de protection à l'époque de Saddam Hussein. Tout ça, évidemment, a volé en éclats, puisque nous savons que le plan des Américains, il porte une responsabilité véritablement essentielle, a été de détruire ou de tenter de détruire ce qui constituait le cadre à peu près fluide du fonctionnement de l'État-nation irakien au profit de l'exacerbation des tensions entre les différentes communautés. On se souvient que les trois principales d'entre elles, c'est les sunnites, ce sont les chiites, enfin par ordre d'importance les chiites, puis les sunnites, mais aussi les kurdes. Donc c'est à la fois des modes d'identification confessionnelle, mais aussi ethnique pour le cas des kurdes, et que malheureusement, les chrétiens ont été un peu les premières victimes de ces exacerbations ethno-confessionnelles. Et donc cette situation de dégradation de la situation du quotidien des chrétiens d'Irak et plus généralement d'Orient, parce qu'on pourrait faire presque le même type de remarque pour le cas de la Syrie, n'a cessé de se dégrader depuis maintenant près de 20 ans. Il est clair qu'il y a eu la période Daesh qui a été la plus terrible, la plus cruelle, la plus violente. Aujourd'hui, il semble que la situation soit un peu moins mauvaise, si je puis me permettre de le dire ainsi, mais pour autant, nous savons qu'une très grande partie des chrétiens d'Orient, soit sont morts, soit sont partis en exil, parce qu'ils considèrent que leurs conditions de vie au quotidien, la sécurité n'est plus assurée, et ils préfèrent partir. Donc il y a une véritable fuite d'une partie de la population chrétienne en dehors des frontières irakiennes et syriennes, mais là, parlons plus précisément de l'Irak.
Alors le message papal, c'était aussi de venir sur la terre de plusieurs monothéismes, avec des lieux, je dirais, symboles de toutes les religions, mais en particulier peut-être un message extrêmement fort de main tendue et de dialogue avec la communauté chiite d'Irak, et en particulier la mise en scène de cette rencontre avec l'ayatollah Sistani, qui est la plus haute autorité spirituelle des chiites irakiens.
Oui, c'est non seulement des chiites irakiens, c'est incontestable. Ali Sistani a une véritable aura. Il est encore, malgré son âge très avancé, il est encore très écouté. Il bénéficie de milliers de fidèles qui écoutent ses paroles et qui suivent ses consignes. Donc c'est à la fois un acteur religieux avant toute chose, mais c'est aussi un acteur politique. On se souvient par exemple qu'en 2014, alors que l'État islamique était en train de remporter des victoires tout à fait étonnantes, des
spectaculaires,
victoires éclairs, absolument, Ali Sistani est celui qui a appelé à la constitution des milices pour se défendre contre l'État islamique. Donc on voit bien que cet homme a un rôle politique. Mais pour ce qui concerne l'entretien avec le pape, évidemment, celui-ci a toujours, forcément, par nature, un contenu politique dans ce type de situation, mais c'était aussi un message de type œcuménique. Il y avait une volonté de dialoguer, de porter l'un et l'autre un message de paix. Alors là, les photos, les vidéos que nous avons pu voir sont d'ailleurs très très frappantes, ne serait-ce que visuellement, parce que vous aviez le pape habillé tout de blanc, alors que l'ayatollah Sistani est lui vêtu tout de noir. C'est un deux hommes assez âgés. Il n'empêche, ils ont pu dialoguer. Et ce qui est très important, c'est qu'Ali Sistani, lors de ses déclarations, a véritablement dit publiquement, et j'insiste sur le fait que sa parole est écoutée, a dit publiquement que les chrétiens devaient se sentir chez eux en Irak. Alors évidemment, la situation est en réalité beaucoup plus compliquée pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, mais en même temps, c'est une forme de protection qui a été apportée par la plus haute autorité morale des chiites d'Irak à l'encontre, à l'égard de la population chrétienne. Donc ça, c'est très important. Et puis l'un et l'autre ont évidemment porté des messages de paix. On ne pouvait en attendre moins. Malheureusement, entre la déclaration et ce qui se fera réellement dans les semaines, les mois, voire les années à venir, il y aura sûrement un gap. Mais pour autant, évidemment, de ce point de vue, c'est très positif. Et je rappelle au passage qu'évidemment, la communauté chiite en Irak, c'est celle qui est numériquement majoritaire. Alors, on évalue environ 60% de la population irakienne qui est de confession chiite. Cela renvoie bien sûr aux divisions communautaires que j'évoquais, qui sont notamment le produit de l'intervention des États-Unis en 2003. Donc pour autant, les questions ne sont pas réglées, mais il était utile, important probablement, que le pape puisse se rencontrer avec cette haute autorité morale. Et c'est d'ailleurs dans la même logique, mais là ce n'est pas simplement au niveau religieux, qu'il s'est rendu dans les territoires à majorité kurde et qu'il a pu rencontrer les autorités politiques kurdes, qu'il a aussi pu célébrer des messes, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les zones kurdes. Malheureusement, et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, il n'a pas rencontré les responsables de la communauté sunnite. Alors là, c'est, je crois, une faute politique de la part du pape François, parce que les sunnites, même s'ils sont minoritaires, mais là n'est pas la question, c'est ceux qui ont payé durement les conséquences de la déstabilisation de l'Irak. Nous savons fort bien qu'après 2003, ils ont été exclus de toutes les responsabilités politiques, administratives, et qu'ils sont en quelque sorte marginalisés. Je pense qu'il aurait été légitime que le pape se donne le temps de rencontrer aussi les autorités sunnites, parce qu'il n'y a rien de plus urgent que de tout faire pour maintenir le cadre unitaire de l'État irakien. Ce serait une véritable catastrophe si cet État-nation irakien se divisait en plusieurs morceaux. Je ne crois pas que ce soit l'hypothèse la plus plausible dans les mois ou les années à venir. Pour autant, on n'est pas à l'abri de ce danger et ce serait évidemment un facteur de déstabilisation très préoccupant pour l'ensemble de la région. Et je pense que de ce point de vue, le pape aurait dû prendre le temps de rencontrer aussi les sunnites, et ainsi il aurait pu rencontrer les principales composantes de la population irakienne sans en laisser aucune de côté. Ça, je crois que c'est peut-être le point négatif de sa visite.
Peut-être pour donner un éclairage sur cette question que j'ai posée aussi à notre invité précédent, Khatar Al-Boudiab nous disait que d'une part, il avait constaté qu'il y avait des représentants sunnites qui étaient présents lors de la visite du pape, que d'autre part, il y avait eu d'autres rencontres dans d'autres pays, notamment à Abu Dhabi, avec des autorités sunnites. Et puis, Khatar Al-Boudiab disait, n'oublions pas que l'Irak est effectivement une mosaïque, et que même si les chiites sont peut-être majoritaires, il dit il y a aussi, c'est un pays aussi qui est marqué par une certaine mixité, avec une mixité entre les sunnites, les chiites, entre les chrétiens, les sunnites, les chrétiens, les chiites. Donc il dit finalement cette question de l'exacerbation des identités religieuses, elle existe évidemment, elle a peut-être même été renforcée ces dernières années suite à l'intervention américaine, mais quand même ça reste une mosaïque. Et dont manque d'ailleurs. Et c'était le regret de Al-Boudiab vis-à-vis du pape. Ils ont peut-être oublié qu'il y a eu aussi une importante communauté juive.
Mais il y a eu. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de juifs, ou peut-être quelques unités, quelques vieilles personnes, peut-être y en a-t-il, mais ça n'apparaît plus statistiquement. Donc, c'est d'ailleurs très regrettable, mais c'est ainsi. J'ai une nuance avec Ratar Aboudiab sur le fait qu'il est juste, il a raison de dire qu'il y avait des représentants des sunnites dans les différentes réceptions, parce qu'on le voit sur les vidéos grâce à leur tenue. Mais cela n'équivaut pas tout à fait à une réunion en tant que telle avec ses responsables. C'est là où il y a une petite nuance peut-être avec votre précédent interlocuteur, et que ça n'aurait pas coûté beaucoup de temps ni d'énergie au pape que de consacrer quelques heures de cette visite à des rencontres formellement consacrées à la dite communauté sunnite. C'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de mosaïque et de mixité entre les différentes composantes de cette mosaïque irakienne, oui, mais le problème, c'est qu'elle existe de moins en moins, cette mixité. Elle a pu exister. Alors je ne suis pas obsédé par l'intervention des États-Unis, mais pour autant, quand on se préoccupe de la situation irakienne aujourd'hui, il est...
Oui, 2003, c'est une date clé.
Oui, absolument, c'est tout à fait déterminant. Et le pauvre Irak a bien du mal à se sortir de ses soubresauts depuis maintenant quasiment 18 ans déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis 18 ans, justement, à cause de cette exacerbation des différents modes de référents identitaires qui a été voulu par les États-Unis au point de départ, eh bien la mixité, elle existe de moins en moins. Et on voit bien d'ailleurs dans la topographie de l'État irakien, on voit bien qu'on constate qu'il y a des zones géographiques qui sont à majorité, très majoritairement peuplées par des sunnites et ou des kurdes et ou des chiites selon les endroits où on se place. Si vous allez à Bagdad, par exemple, eh bien, on constate aisément qu'il y a des quartiers exclusivement chiites, des quartiers exclusivement sunnites, et donc cette mixité, elle existe malheureusement. C'est très grave, d'ailleurs, c'est très préoccupant. Elle existe de moins en moins. Donc je pense qu'il ne faut pas vivre sur des mythes, il faut voir la réalité concrète. Ce n'est pas irréversible. Mais enfin, les violences qui se sont exacerbées depuis maintenant près de 18 ans laisseront des traces, et pour reconstruire un tissu social plus mixte qu'il ne l'est aujourd'hui, ça va prendre très très longtemps. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer et ne pas se faire d'illusions. C'est tout à fait regrettable, condamnable, mais c'est un fait malheureusement qui détermine, surdétermine l'analyse de la situation en Irak.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre message qu'a souhaité délivrer le pape à travers cette visite? C'est finalement le pouvoir de la diplomatie face, je dirais, à la méthode américaine ou à l'emploi de la force pour régler les problèmes. Et finalement, est-ce que le pape n'essaye pas aussi de peser ou à nouveau de peser? On a eu un pape, on se rappelle, de Jean-Paul II où il y avait une diplomatie vaticane extrêmement forte, extrêmement active, avec souvent des prises de position en rupture ou en décalage, et qui a amené d'ailleurs parfois à accélérer ou à produire des changements. Notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Est-ce que là, on a un pape qui, à nouveau, souhaite peser sur les affaires du monde avec son message de paix, avec ce dialogue interculturel? Et finalement, est-ce qu'on peut imaginer, malgré son âge, 84 ans, rappelons-le, qu'il puisse encore visiter d'autres pays et faire finalement d'autres visites historiques pour poursuivre dans le chemin qu'il essaye d'ouvrir?
Je pense que c'est véritablement très important ce que vous soulignez, c'est-à-dire il y a eu un message de paix. Bon, ça c'est le moins qu'on puisse attendre d'un pape ou d'un homme de religion, d'ailleurs quel qu'il soit. Comment ?
Du souverain pontife
en lui-même. Mais ce qui est aussi très important, ça va de pair, me direz-vous, c'est la voie du dialogue. La nécessité du dialogue, la nécessité de rétablir la coexistence entre les différentes composantes d'une société. Alors pour nous qui vivons en France, ça peut paraître relativement évident, quoique. Mais enfin, nous ne sommes pas dans les soubresauts que connaît l'Irak par exemple. Et il faut bien comprendre que porter ce message dans un pays tel que l'Irak, qui est soumis à ses convulsions, à ses attentats, à ses conflits, à ses incursions militaires, à son terrorisme, etc., j'en passe et des meilleurs, c'est évidemment un message d'une très très grande importance. Il ne faut pas la sous-estimer. Évidemment, il ne faut pas croire que, comme par un coup de baguette magique, ce message très puissant de la part du souverain pontife va donner des résultats immédiatement, mais souhaitons-le, en tout cas, c'est peut-être une petite graine qui est semée, qui germera dans quelques temps. En tout cas, c'est ce que l'on peut souhaiter. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison aussi qu'à mon avis, il a fait une erreur en ne pas rencontrant les sunnites. Parce que nous savons bien que l'Irak est soumis à des tendances centrifuges et que de mon point de vue, il n'y a rien de plus urgent que de maintenir le cadre unitaire de l'État irakien, je l'ai déjà dit, ce qui se concrétise aussi par la réintégration de la communauté sunnite à toutes les strates des niveaux de décision, notamment dans l'appareil d'État. Il n'y a rien de plus urgent que de pouvoir mettre en œuvre, mais c'est l'affaire des Irakiens eux-mêmes, un gouvernement, je ne sais pas s'il faut l'appeler d'union nationale, mais à minima un gouvernement inclusif qui regroupe l'ensemble des composantes de la société irakienne. Donc c'est véritablement ça qui est le plus important, et pour ce faire, il faut redonner du sens à ce qu'on appelle la concertation, à ce qu'on appelle le dialogue. Ce sont des valeurs, ce sont des principes plutôt, qui ont été un peu oubliés en Irak, parce que ce pays est un pays martyr, et donc c'est très important qu'il y ait ce message qui soit passé. Et ça, c'est de la diplomatie au sens le plus noble du terme. Il a porté ce message, il a tenu son rôle, et pour répondre aussi à une autre partie de votre question, on peut souhaiter que dans la région, particulièrement, mais on pourrait aussi se poser la même problématique dans certains pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, eh bien le pape ait la volonté et la force physique de faire d'autres voyages de ce type. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas s'illusionner, ce n'est pas en tant que tel ces voyages qui vont tout modifier. Et ça, c'est la grande différence avec ce qui s'est passé en Europe de l'Est à l'époque de Jean-Paul II, c'est qu'à l'époque, ces pays étaient soumis à des régimes de dictature, autocratiques, certes, mais ce n'étaient pas des pays à feu et à sang. Le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, nous avons beaucoup de pays à feu et à sang.
Oui, et en Afrique subsaharienne aussi.
Oui, et en Afrique subsaharienne aussi. Et donc, la tâche, elle est infiniment plus compliquée. Pour autant, je pense qu'il est utile qu'un homme comme le souverain pontife puisse faire ce type de voyage, puisse porter ce type de message, c'est très important, et surtout qu'il puisse rencontrer aussi des interlocuteurs, en l'occurrence, nous l'avons dit tout à l'heure, Ali Sistani, qui est lui-même une autorité morale dans son pays, et d'ailleurs plus largement, une autorité morale pour une bonne partie des chiites, y compris en Iran, parce que Ali Sistani est un homme qui, vous savez qu'au sein du chiisme, il y a un clergé qui est très, très structuré, très hiérarchisé, et incontestablement, même en Iran, il n'y a pas d'homme plus gradé, si vous me passez l'expression, je mettrai bien sûr des guillemets, que Ali Sistani. Ali Sistani, il a le titre de source d'imitation. C'est au sein de la hiérarchie chiite le plus haut degré qu'on puisse atteindre. Donc c'est très important qu'il ait pu le rencontrer, même si on a vu que cet homme était très âgé. Il a encore cette autorité morale, et donc, ma foi, c'est très essentiel pour l'avenir que des sommités de différentes religions se rencontrent et finalement partagent un peu dans leurs échanges et dans les messages qu'ils ont rendus publics, eh bien, un message d'unité aussi. Ça, c'est formidablement important. C'est aussi en ce sens que le voyage du souverain et pontife est historique.
Merci Didier Billon, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. On a pu s'en rendre compte en faisant cet échange avec vous. C'était l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée à la visite du pape François, visite historique du pape François en Irak, en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Je remercie mes invités et je vous souhaite à très bientôt. Vous êtes sur Radio Orient.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.